L'affaire Dreyfus. Mon ami Dupuis. Comme la guerre, j'ai mes petites, moyennes et grandes entrées chez Dupuis. Dupuis me reçoit le matin, le soir, à toutes heures du jour et de la nuit, soit publiquement, soit clandestinement, par les portes officielles ou les escaliers dérobés, selon les circonstances qui m'amènent chez lui. C'est vraiment un homme bien accommodant. Bureau, chambre, cabinet de toilette, salon, water closet, tout est bon pour nos entrevues si cordiales. Ah, si cordiales! De tous ces vieux amis, je suis peut-être le seul en l'âme de qui ce diable de bon garçon aime à déverser, tel le sable des tombereaux, ses plus intimes, ses plus secrètes confidences. Ce qu'il refuse aux autres familiers, même à Mercier, même à Esterhazy, même à Mazot, par une faveur spéciale et ignominieuse, et dont je ne suis pas très fier, il me l'accorde avec une facilité surprenante. Par exemple, je ne vous dirai pas au moyen de quel chantage nationaliste et drumontesque j'ai su capter sa confiance. Qu'il vous suffise de savoir que je l'ai capté beaucoup mieux que les ingénieurs, les sources de l'Avre. Et je puis m'en vanter, ça n'était pas facile. Car si Dupuis est une source parfois bourbeuse, c'est aussi une source extraordinairement méfiante et qui fuse en tous les sens et qu'il est, par conséquent, très dur de saisir, de ramasser, de canaliser. Ah, je sais bien ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, parbleu, ce n'est pas très malin. Et il y a encore une photographie là-dessous. Allez, allez toujours, mes mignons. Le soir de l'élection de M. Loubet, je dînais dans un cabinet de restaurant avec Dupuis. Cornélie était Dreyfusard. Si Dupuis se montra soucieux, je vous le laisse à penser. Plus que soucieux, embêté. Oui, Dupuis était immensément embêté. Dès le potage, il me dit « Oh, c'est embêtant, et je n'ai vraiment pas de chance. Non, là, vrai, ma destinée a quelque chose de constamment ironique, qui m'agace et à quoi je ne comprends rien. Comment ? Voilà trois présidents de la République que je tue sous moi, et je ne suis pas fichu de l'être moi-même. Ce Loubet, je te demande un peu, d'où sort-il encore celui-là ? Loubet, mais c'est fou ! Ça n'a aucun sens !» Au nom de Loubet, il y eut sur sa physionomie une lutte entre la mauvaise humeur et la joie. La joie l'emporta. Et, se frottant les mains, « C'est égal, » fit-il. « Je lui ai proposé une entrée de choix dans sa bonne ville de Paris. Ses clameurs, ses hurlements, ses matraques levées, ses poursuites autour du landau, Panama, démission !» Tout cela a dû lui réjouir l'âme à ce Loubet de malheur. Je ne pus m'empêcher de lui adresser un amical reproche. « C'était raide tout de même, tu sais, » déclarai-je. À quoi Dupuis, bonhomme et gouvernemental, répliqua « En politique comme en amour, on n'est jamais trop raide. » Et, avec un geste débraillé, il ajouta « Et puis, Loubet, c'est pas mon père !» Je lui demandai « Enfin, il te garde ?»« Parbleu, où veux-tu qu'il aille en ce moment trouver des ministres qui consentiraient à se charger de toutes nos saletés, petites ou grandes ? Il est bien forcé. » Ah, voilà un président qui va s'amuser. Et toi, que comptes-tu faire ? » Dupuis esquissa un geste vague de la main. « Ma foi, je n'en sais rien encore. Toujours la même chose, sans doute. À moins que ce ne soit le contraire. » Il rêva quelques secondes, puis il soupira. « Ah, mon plan était vraiment admirable. Je te l'ai confié plusieurs fois. Esterhazy, Mazot et Quesnay de Beaurepaire m'y encourageaient. D'abord, faire écraser les Dreyfusards par les nationalistes. Ensuite, écraser les nationalistes et, sur tous ces débris, installer une bonne petite république à moi, avec de la proscription, de la relégation autour, et des assommades, des lois scélérates, des associations de malfaiteurs. Le grand jeu, quoi. Eh bien, oui, mais voilà, il faut voir maintenant, ça n'est plus tout à fait la même chose. » Il s'emporta tout d'un coup et, frappant sur la table avec violence, il s'écria « Les nationalistes sont des chiffes !»« Ouais, parbleu, ils gueulent, ils hurlent, ils aboient !»« Mais au fond, rien !» J'ai beau leur dire « Je vous livre la rue, elle est à vous, et ma police aussi, tout est à vous. Marchez, tapez ferme et frappez dur !»« Ah, bien oui !» Et il suffit parfois de quelques hommes déterminés pour mettre leur bande en déroute. Ce n'est pas sérieux. On ne peut vraiment pas travailler avec ça. En ce moment, des clameurs montèrent de la rue, molles et grêles. « Panama, démission, à bas Loubé !»« Tu les entends ?» fit Dupuis avec découragement. « Pas de nerfs, pas de haine. Ils s'en fichent. Ils gagnent leur argent et, demain peut-être, ils crieront « Vive Loubé !» Comment veux-tu que je gouverne avec de tels auxiliaires ? Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de rues, il n'y a plus rien. Pauvre France ! Alors, négligemment, j'insinuais, si tu essayais tout bonnement de gouverner avec la vérité. Dupuis haussa ses fortes épaules et, riant d'un rire amer qui emplit le cabinet d'un bruit de bourrée, « Ça n'est pas mon genre ! Regarde-moi ! Ai-je l'air d'un Dupuis d'où sort la vérité ? Oh là là ! Non, vois-tu, je compte sur autre chose. Mais sur quoi, puisqu'il n'y a plus rien ? Je compte sur Copé, dit-il fermement. Et comme je ricanais, vois-tu, ajouta-t-il, on ne sait pas ce que c'est qu'un Copé enragé, un Copé qui a pris contact avec la foule et qui a respiré, avec Forain et le maître, l'âpre odeur de l'émeute. Qui te dit que ce cataplasme n'est pas le volcan, cette seringue, l'explosif ? Qui te dit que Copé n'a pas la fistule guerrière et le lait de poule des sans-briseurs ? Qui te dit que ce bonhomme couvert d'ouate féniquée n'a pas l'âme formidable de celui qui doit reprendre la Bastille ? Et que jeudi, aux obsèques... Dupuis s'exaltait. Je l'interrompis doucement. « Hélas, murmurai-je, je crois que Copé ne prendra que l'omnibus, Bastille. » Je servis une large part de charlotte russe à mon ami, qui, revenu tout à coup à un sens plus net de la situation, soupira « De la marmelade, alors, toujours de la marmelade. » L'Aurore, 23 février 1899.